Passez à table maintenant. En guise de goûter, nous avons le droit de déguster des phytomicronutriments. Voilà, il s'est reconnu. Lui, c'est David Godou, directeur de recherche et innovation, qui s'intéresse à la première étude menée par le Centre de recherche Bordeaux Population Health Active Insight. Vous allez nous décrypter tout ça. Cette étude a démontré l'intérêt de mettre dans nos menus une combinaison de polyphénols. Vous allez nous dire en quel aliment cela se concrétise, apporté par notre alimentation. C'est à vous.
Tout d'abord, bonjour à tous. Je remercie la Fondation Recherche Alzheimer de nous inviter. Voilà, comme ça. Donc je remercie la Fondation de nous avoir invités cet après-midi. À la question, en fait, est-ce que notre alimentation peut agir sur notre cerveau? En fait, aujourd'hui, il y a une réponse qui est simple, puisqu'il n'y a plus aucun doute, surtout depuis ces 15 dernières années. La recherche nous apporte un certain nombre de réponses. Et pour moi, la question qui me conviendrait plutôt d'être posée concerne plutôt, c'est comment peut-on mieux manger pour faire en sorte que l'on soit sain ou malade, on soit en mesure de mieux préserver notre cerveau. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer cet après-midi.
N'hésitez pas à vous rapprocher un petit peu.
D'accord. Voilà. Bon, en termes de facteurs de risque, on a déjà vu des intervenants en parler tout à l'heure. Il y a effectivement l'âge qui est le premier facteur. On a effectivement plus de malchance d'être malade si l'on est âgé. Il y a également des facteurs comme les maladies cardiovasculaires, l'obésité, le diabète, le fait effectivement de fumer, le fait de boire aussi de l'alcool, si bien entendu ce sont des facteurs de risque. Mais le pendant de tout cela, on va essayer de voir les choses un peu positivement, c'est qu'on peut mettre en place des stratégies de prévention du déclin cognitif. L'intervenante précédente parlait effectivement d'interaction sociale. C'est un point, bien entendu, qui est fondamental. On va parler également d'activité intellectuelle. Il est évident que si vous pouvez maintenir une activité intellectuelle, vous maintiendrez un peu mieux votre cerveau en état. L'activité physique, tout simplement marcher. Ça ne coûte rien. Et marcher une heure, effectivement, dans une forêt, ça peut vous faire énormément de bien. Le fait, surtout, c'est de le faire le plus souvent possible. Et de façon quotidienne, serait encore mieux. L'alimentation s'inscrit dans cette stratégie de prévention du déclin cognitif. Je vais juste rappeler également donc un point qui est important, c'est que si on était en mesure de retarder de 5 années l'apparition des symptômes du déclin cognitif, cela nous permettrait de diminuer de moitié la prévalence de ces maladies, notamment des démences. Donc c'est quand même des choses qui sont assez importantes et qui sont accessibles. Je pense qu'il y a des petits... Alors je vais vous parler tout d'abord d'un régime que tout le monde a entendu parler et qui est étudié depuis les années 60. Donc c'est là où on a le plus de recul, qui est le régime méditerranéen. Donc en quelques mots, c'est quoi le régime méditerranéen? C'est consommer plus de fruits et de légumes, consommer du poisson, consommer des crustacés également, et surtout éviter des graisses saturées. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en manger, mais il faut peut-être en consommer un petit peu moins. Et quand on regarde ça, très concrètement, le recul que l'on a, c'est sur un certain nombre d'études d'observation, qu'on appelle des études épidémiologiques. Il y a une méta-analyse, donc qui concrètement regroupe toutes ces études épidémiologiques pour lesquelles on a suivi des personnes pendant des décennies. Et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a un lien entre la consommation de ce type de régime et la maladie d'Alzheimer. Puisqu'on fait des corrélations où on s'aperçoit qu'il y a 40% de moins de malades d'Alzheimer sur des gens qui poursuivent ou qui suivent ce type de régime. Il y a un autre régime qu'on appelle le DASH Diet, qui est un régime qui vient des États-Unis. Et dont l'objectif est plutôt de prévenir et de traiter l'hypertension. Ça, ce sont des études qui ont commencé dans les années 90. Et concrètement, c'est quoi? On va se retrouver également à consommer des fruits, des légumes, également des céréales complètes. C'est important d'utiliser le terme complet. On va manger un peu de poulet, on va éviter les viandes rouges. Et surtout, on va essayer de limiter au maximum des aliments qui sont pas forcément très bons pour la santé. Je pense à des sucreries, des choses comme ça. Et dans ce cadre-là, en fait, pareil, on s'aperçoit que ces études d'observation, voire dans certains cas même d'intervention, permettent de mettre un lien entre la prévalence, en tout cas le risque de ces maladies, et ce type d'approche. Vient maintenant ce qu'on appelle le Mind Diet. Le Mind Diet, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins qu'un mix des deux, entre le régime méditerranéen et le régime DASH. Et pareil, il y a eu des interventions qui ont été réalisées sur ce déclin cognitif. On s'aperçoit que ceux qui ont un score, donc ceux qui poursuivent le mieux ce type de régime, ont effectivement un risque de maladie d'Alzheimer plus faible. Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, effectivement, on peut se poser la question, quels sont les nutriments qui pourraient être les plus prometteurs en termes de prévention? Là, je ne parle que de prévention et de rien d'autre. Ne pas oublier non plus que quand on mange des aliments, on ne mange pas que des micronutriments ou que des phytomicronutriments, si on parle de végétaux, mais on mange un aliment dans sa globalité. On va amener du sucre, on va amener des fibres, on va amener des protéines, ce genre de choses qui sont également importantes. Pour autant, si on se focalise plus particulièrement sur les micronutriments, il y a une première catégorie qu'on appelle les antioxydants et plus particulièrement les polyphénols. Alors, les polyphénols, c'est quoi? On ne les retrouve que dans les fruits et dans les légumes. C'est ce qui va donner la couleur, par exemple, d'un fruit rouge. Les anthocyanes, qui font partie d'une catégorie qu'on appelle les flavonoïdes, sont des molécules assez intéressantes. Elles ne sont pas très biodisponibles, mais elles jouent un rôle, a priori, sur le microbiote et également sur le cerveau. Les polyphénols, grosso modo, aujourd'hui, c'est quoi? C'est 8000 molécules qui ont été identifiées dans les fruits et les légumes. On sait qu'il y en a beaucoup plus, mais parmi ces 8000 molécules, toutes n'ont pas le même rôle. Certains, par exemple, vont pouvoir être assimilés, certains vont pouvoir passer ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique pour aller jusqu'au cerveau, et certains également peuvent jouer, par exemple, sur la neurogénèse. À côté de ces polyphénols, on va se retrouver avec d'autres molécules qui sont un peu plus connues, les vitamines, je pense à la vitamine E, la vitamine C, les caroténoïdes, typiquement ce que vous avez dans la carotte et qui donne la couleur orange. Vous allez également avoir d'autres vitamines qui jouent un rôle essentiel, la vitamine D. Il faut savoir qu'il y a à peu près 60% des Français qui sont carencés en vitamine D. Alors, effectivement, quand on est en été, on l'est beaucoup moins, puisque c'est lié également au soleil. On va avoir les oméga-3, vous en avez tous entendu parler, qu'on peut retrouver dans des œufs, qu'on peut retrouver bien entendu dans le poisson, et dans certaines huiles végétales. Les vitamines B, ce qu'on appelle la vitamine B9, qui sont des folates, qu'on va plutôt retrouver dans des légumes à feuilles. Et maintenant, quand on essaie de regarder de façon très pratique, très concrète, ça veut dire quoi? Effectivement, on voit, je vous ai dit, que consommer des fruits et des légumes permet effectivement de se rapprocher plus d'un régime méditerranéen ou d'un DASH diet. Pour autant, tous les fruits, tous les légumes, ou tous les aliments d'une façon générale, n'ont pas la même densité, et en particulier la densité neuronutritionnelle. Prenez une pomme Granny Smith, prenez une pomme de terre. Une pomme de terre, ça contient également des polyphénols, même un peu de vitamine C. Vu les quantités qu'on consomme, ça peut effectivement venir compléter largement l'alimentation en termes de vitamine C. Prenez du raisin blanc, prenez du beurre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas consommer ces aliments-là. Il faut juste avoir conscience qu'il peut y avoir des alternatives qui peuvent venir compléter, sans forcément se substituer en totalité, l'alimentation par rapport à ces aliments. Prenez une pomme rouge, vous allez avoir beaucoup plus de polyphénols. Il faut savoir que la variabilité de polyphénols dans une pomme peut aller de 1 à 10. Donc c'est quand même assez important. Elles n'ont pas toutes cette même densité neuronutritionnelle et cette densité nutritionnelle. Je prends l'exemple de la patate douce. La patate douce, si vous faites des purées, pensez de temps en temps tout simplement à utiliser de la patate douce. La patate douce va vous amener tout simplement des caroténoïdes qui sont vraiment intéressants. Du raisin blanc, si vous ne voyez pas d'inconvénient, mangez du raisin rouge. Franchement, là, vous allez augmenter par 3 ou 4, tout simplement, la concentration en polyphénol par rapport à du raisin blanc. Pensez également à consommer de l'huile d'olive. L'huile d'olive, outre effectivement les acides gras que l'on va retrouver dedans, il y a un certain nombre de polyphénols qui ont un réel intérêt. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'on a eu l'idée de monter un programme de recherche qui s'appelle Silver Brain Food. Alors, ce programme de recherche, en fait, il est aujourd'hui constitué, porté par 4 partenaires, donc, dont nous sommes le partenaire qui avons créé ce projet et qui le portons à hauteur de 10 millions d'euros. On a également un partenaire industriel qui s'appelle EC6, qui est spécialiste de la restauration en gériatrie, également au niveau du handicap et au niveau des hôpitaux. Pardon. On a également 2 partenaires académiques qui sont historiques pour nous, qui sont sur le Neurocampus de Bordeaux, à savoir qu'il y a NutriNeuro, qui est ce qu'on appelle une unité mixte de recherche INRAE, Université de Bordeaux, et un autre partenaire qui est BPH, qui lui est une unité mixte de recherche INSERM, Université de Bordeaux. Donc dans ce cadre de ce nouveau programme, pour bien comprendre d'où on vient, l'histoire commence en 2007. En 2007, l'équipe de Le Tonnerre, donc qui est chez BPH, publie les résultats d'une étude épidémiologique où ils ont suivi pendant un certain nombre d'années une cohorte de personnes qui étaient saines. Je ne parle pas de personnes malades. Et ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait une corrélation entre la consommation de flavonoïdes, donc une des sous-familles de polyphénols, et le déclin cognitif. C'est-à-dire qu'en aucun cas, on ne stoppe le déclin cognitif. On le ralentit. Et suite à ce projet-là, à cette publication, nous avons monté un programme de recherche qui s'appelle Neurophénol, qui s'est terminé en 2015, qui a duré 5 ans, avec un budget d'un petit peu plus de 4 millions d'euros, et qui a réuni à la fois des partenaires industriels et académiques entre la France et le Canada. Et dans ce programme-là, on a fait ce qu'on appelle des études précliniques, c'est ce que le professeur Dubois expliquait tout à l'heure. On a également fait des études d'intervention, donc cliniques, donc avec 215 personnes. Donc concrètement, c'est quoi ? C'est un placebo, donc les gens concrètement vont manger de ce qu'on appelle la maltodextrine qui n'a aucune activité, versus des actifs qui contenaient des polyphénols. Et ces travaux de recherche ont fait l'objet de plusieurs publications scientifiques, donc dans des revues à comité de lecture, avec notamment des commentaires qui ont été publiés dans JAMA, donc qui pour nous était en tout cas un signe assez intéressant. Et qu'est-ce qu'on a remarqué ? C'est que sur des populations saines, en l'occurrence, des personnes qui avaient un déclin plus marqué cognitif que la moyenne, on arrivait effectivement à avoir des résultats assez intéressants par rapport à ce déclin. Suite à ça, donc fin 2015, je suis retourné voir les gens de BPH, parce que dans le programme que j'évoquais tout à l'heure, Neurophénol, c'est avec Nutri-Neuro, donc qui est un des partenaires de ce programme Silver Brain Food, je suis retourné voir l'équipe de BPH, pardon, et en leur disant, écoutez, vous avez une étude épidémio que vous suivez depuis plus de 12 ans, je serais curieux de voir si à tout hasard, il y aurait un lien entre la consommation de polyphénol et cette fois-ci la démence, et en particulier la maladie d'Alzheimer. Donc ça fait l'objet d'une publication donc, à laquelle on a été associé, et qui clairement a montré qu'effectivement, il y a une association entre, ça ne veut pas dire un lien de cause à effet, hein, c'est une association, entre la consommation de polyphénol particulier, ce n'est pas n'importe lesquels, et la réduction de la fréquence des démences. On parle de 50%. Ce n'est pas neutre. Suite à ça, je me souviens, c'était au retour d'un congrès en Espagne, avec un chercheur de BPH qui s'appelle Cécilia Samieri. J'écoute Cécilia, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'essayer de monter un programme qui soit un petit peu plus ambitieux que ce que nous avions fait préalablement ? Et suite à ça, on a monté ce programme, Silver Brain Food, qui a pour ambition la prévention du déclin cognitif normal. On parle de prévention. Les gens qui ne sont pas encore malades. Mais également pathologique, par une alimentation qu'on appelle à haute densité neuronutritionnelle, comme je l'évoquais tout à l'heure. Alors, ce n'est pas simplement les polyphénols, hein, que les choses soient bien claires. C'est de se dire, qu'est-ce qui potentiellement peut fonctionner dans l'ensemble de notre alimentation qu'on pourrait privilégier. Et ça, bien entendu, l'idée, c'est de valider scientifiquement, donc avec la rigueur nécessaire. Placebo versus, effectivement, les actifs que l'on veut tester, dans ce qu'on appelle des études en double aveugle, donc ni la personne qui reçoit le produit, ni celle qui le donne, ne peut influencer ou ne sait ce que la personne va consommer. Et ça, aussi, chaque mot est important pour nous, il faut que ce soit économique. Ce dont je suis en train de vous parler, si on s'est amusé à faire le petit calcul en se disant, voilà, si on était, pour des gens qui consomment, comme en France, un certain nombre d'aliments, combien ça coûterait d'avoir un régime qui se rapprochait le plus du régime méditerranéen, juste au regard de ces nutriments ? On parle de 500 euros par an supplémentaires. Comparer ce montant-là à ce que coûte, par exemple, un EHPAD. C'est juste ça dont je suis en train de parler. Et ça, je veux que ce soit effectivement, pour nous, c'est fondamental, que ce soit accessible à tout le monde. Il y a cette notion aussi de durabilité, je pourrais y revenir dessus. Et l'idée, c'est que ça s'adresse à des seniors qui soient à la fois autonomes, mais également dépendants et leurs aidants. C'est comment aider aussi les aidants à donner en tout cas envie, ou du moins d'améliorer cette alimentation.
Là, vous parlez d'aliments et pas de suppléments.
Non, là, je parle effectivement d'aliments. Mais après, il peut y avoir dans certains cas.
Non, mais les 700 euros dont vous parlez.
500
là.
Euros, je parle. Ouais. Sur les 500 euros, c'est sur l'alimentation globale. C'est-à-dire par rapport à une alimentation que vous avez aujourd'hui, effectivement, si demain je vous dis, allez acheter de la myrtille, ça a un coût. Effectivement, ça coûte plus cher que du raisin. Mais pour autant, voilà, on ne parle pas de montants qui sont astronomiques. C'est accessible. Or, ce n'est pas accessible à toutes les bourses. Je l'entends bien.
40 euros par mois pour avoir une option vraiment positive avec les aliments clés qui nous font vraiment du bien à l'organisme.
C'est exactement ça. Et notre idée aussi, si vous voulez, par rapport à cette approche-là, c'est d'aider les professionnels, notamment les professionnels qui sont dans des EHPAD. Il y a la possibilité, effectivement, de les aider à sélectionner des matières premières. Je ne parle pas de choses qui soient supplémentées ou autres, hein. Je parle vraiment d'aliments. Et pour faire ça, en fait, on a deux approches. La première, c'est une approche dite digitale de coaching nutritionnel en B2B. Donc, ma société, on est plutôt au niveau ce qu'on appelle B2B. On s'adresse à des entreprises, on ne vend pas de produits finis. On vend des produits, des ingrédients, des choses comme ça, mais également des solutions digitales que nous sommes en train de développer. Et cette notion de non-stigmatisation, pour nous, est fondamentale. Il n'est pas question, il est vraiment important pour que les gens adhèrent à ce type d'approche, qu'ils ne soient pas stigmatisés. Ça n'a pas d'intérêt, sinon on va venir un petit peu les forcer, et au final, ça ne marchera pas. Quelqu'un qui peut ne pas aimer, par exemple, le brocoli, même si le brocoli est très intéressant, bien entendu, on ne lui proposera pas de brocoli. L'idée, c'est d'aller jusqu'à des listes de courses, pour que vous puissiez effectivement tout au long de la semaine avoir, je dirais, une alimentation qui soit équilibrée avec des menus, mais également jusqu'à aller sélectionner en bas de chez vous si vous faites vos courses au marché ou dans un supermarché, vous aider à le faire correctement.
Donc faire ses courses en connaissance de cause, en Exactement. Sachant que le raisin noir, il apportera plus que le blanc. Si on adore le blanc, on prend du blanc. Mais on sait que le raisin noir, si on hésite, il est plus riche en micronutriments.
C'est exactement ça. Donc, on peut aider et accompagner les gens, bien sûr, en fonction des saisons. C'est pour ça qu'il y a cette notion de durabilité aussi qui est importante. Ce n'est pas la peine d'aller chercher des produits alors qu'on peut trouver d'autres sources de micronutriments ou du moins d'autres aliments très intéressants. Ça, c'est le premier volet. Et il y a un deuxième volet, parce qu'on est industriel, qui porte sur les ingrédients et des aliments à haute densité neuronutritionnelle. Donc là, c'est pareil. Notre idée, c'est de pouvoir amener des solutions globales dans lesquelles on va augmenter la densité neuronutritionnelle, parce que dans certains cas, malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Je discutais avec les personnes de C6 qui ont déjà participé à des programmes de recherche, notamment sur le déclin cognitif et en particulier sur la maladie d'Alzheimer. Ils m'expliquaient qu'il y a ce qu'on appelle des petits consommateurs ou des très petits consommateurs qui vont consommer jusqu'à 700 grammes d'aliments par jour, ce qui est rien. Là-dedans, je peux vous assurer, vous n'aurez jamais la possibilité, même en choisissant les meilleurs aliments du monde, d'avoir la densité neuronutritionnelle suffisante. Ce n'est pas possible. Donc on est dans cette logique-là. Et puis il y a également effectivement des solutions, parce que nous on fait pas mal d'exports. Donc les habitudes alimentaires ne sont pas les mêmes aux États-Unis, au Japon, en Corée ou en France. Donc ça, on en tient compte également. Donc ça, c'est gérer l'ambition et gérer les principales solutions que l'on souhaite développer dans le cadre de ce programme. Alors c'est un programme qui vient de démarrer en réalité. Donc nous, chez Active Inside, on travaille sur ces sujets-là depuis une dizaine d'années. Donc on n'a jamais arrêté réellement. Mais donc ce programme a officiellement démarré en avril 2021. Donc c'est une durée de 5 ans, avec un budget qui est assez conséquent, puisqu'on parle d'un budget de 16 millions d'euros, et qui est soutenu par BPI France, et donc qui a été validé au niveau du cabinet du Premier ministre, c'était l'année dernière. Donc ça, je dirais, c'est un petit peu notre idée, et je profite d'être ici pour lancer un appel à candidature. Donc si vous êtes une association, une société de service ou un industriel, et que vous étiez intéressé par ce programme Silver Brain Food, parce qu'en fait, il est ouvert à d'autres. L'idée, c'est de pouvoir effectivement créer ce qu'on appelle un comité d'utilisateurs et permettre effectivement que les solutions que l'on va développer soient le plus adaptées aux besoins des personnes. Je vous remercie.
Alors, j'ai une question pour vous. Ne partez pas trop vite. Dans quels aliments trouve-t-on les polyphénols et donc tous ces phytonutriments? Vous en avez cité quelques-uns. Est-ce qu'il y a une liste? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut retrouver vos conseils ou les conseils des spécialistes?
J'ai pas de liste. Il y a des bases de données qui existent aujourd'hui sur la composition, notamment en polyphénols. Alors, j'insiste, ce n'est pas que les polyphénols. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir une approche la plus globale possible. Les polyphénols, pour vous donner un ordre de grandeur aussi, on en consomme en moyenne, en tout cas en Europe, à peu près 1 gramme par jour. Si vous considérez la vitamine C, juste pour vous dire d'un point de vue pondéral, alors ce n'est pas du tout les mêmes mécanismes, ils sont tous importants. La vitamine C, on va en consommer à peu près 80 mg. Donc pondéralement, c'est important. Et effectivement, on a sous-estimé leur impact pendant des années. Or, aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, ils jouent un rôle fondamental.
Donc, il n'y a pas vraiment de liste. Donc, nous allons faire un article dans notre temps dans lequel nous pourrons lister un maximum d'aliments. Je pense
plaisir.
Que ça manque, on
avec
va le faire. Et dans quel hôpital peut-on faire un bilan nutritionnel? C'est vrai, peut-être que spontanément, certaines personnes consomment déjà beaucoup de ces nutriments et d'autres sans doute moins, vous l'aviez dit. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut faire un bilan et...
Alors, un bilan, en fait, déjà, c'est la première chose, c'est de ce qu'on appelle les enquêtes alimentaires. Tout simplement de regarder qu'est-ce que vous avez mangé. Enfin, généralement, quand on fait ces études-là, et c'est ce qui est prévu dans notre programme de recherche, il y a trois volets. Il y a un volet épidémiologique, il y a un volet préclinique et un volet clinique. Et le fait de pouvoir croiser, c'est ce que nous avions fait avec BPH, tout simplement ce que vous avez mangé, et on vous dira ce que vous avez réellement consommé en termes de polyphénols.
Donc un nutritionniste, déjà, peut nous éclairer, nous pointer des carences ou des choses, des familles d'aliments qu'on mangerait insuffisamment?
Alors, je ne sais pas si on peut parler de carence. En tout cas, on peut privilégier, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas dans ce qu'on appelle des AGR ou des VNR, donc des valeurs nutritionnelles recommandées. Pour autant, voilà, il faut savoir que ces molécules-là, enfin, je dérive un tout petit peu, mais on sait qu'il y a une action directe, par exemple, sur le système cardiovasculaire. Vous prenez du chocolat noir, pareil, c'est un très bon exemple. Le chocolat noir est une très bonne source de polyphénol. Et on sait que le chocolat noir, donc ça, c'est après des validations qui ont été obtenues auprès de ce qu'on appelle l'EFSA, donc c'est l'Autorité européenne de sécurité alimentaire, a permis d'avoir ce qu'on appelle les allégations de santé sur le système cardiovasculaire. Donc ça, ce type de molécule-là, vous allez le retrouver par exemple dans le raisin.
Les aliments que vous avez cités sont également ceux cités dans l'alimentation pour prévenir le cancer, ou qui étaient cités par David Servan-Schreiber contre la dépression, contre le cancer, etc. Donc c'est un petit peu des aliments dont on aurait vraiment besoin, dont l'organisme aurait vraiment besoin pour différents types de maladies.
En fait, il y a plusieurs études épidémiologiques qui ont montré qu'effectivement, il y avait un lien entre l'alimentation, par exemple, et la dépression. Parce que vous avez des actions, on retrouve toujours un peu les mêmes fruits ou légumes, mais il y a également, j'insiste sur les oméga-3 ou d'autres sources qui sont également importantes. Clairement, oui, notre alimentation joue un rôle fondamental sur toutes ces pathologies. Oui.
Et on a vu tout à l'heure la dépression et le lien avec la maladie. Exactement. D'Alzheimer. Un grand merci pour toutes ces explications.